Pour continuer, Radio Okapi à Tikwit sur 103.5 FM.
La population et les opérateurs économiques de la ville de Tikwit ne savent pas accéder à la ville de Bandundu, chef-lieu de la province. Selon la société civile, le manque de moyens de transport par route, la rareté des unités fluviales sur la rivière Kwilu et l'absence totale d'une ligne aérienne entre ces deux villes seraient à la base de cette situation. Elle en appelle donc aux autorités de la province ainsi qu'aux opérateurs économiques de tout mettre en œuvre pour désenclaver ces deux importantes villes de la province. Fabien Cambizi, vous êtes en ligne et vous êtes penché sur la question. Bonjour Fabien.
Oui, bonjour JF.
Alors les villes de Kikwit et Bandundu s'est réenclavée, la communication est très difficile. Pourquoi ne fait-on pas un effort pour désenclaver ces deux villes sœurs?
Oui, JF, il est vrai que ces deux entités de Bandundu ne se communiquent pas facilement. C'est un constat de la population elle-même et des opérateurs économiques de ces villes. Pour arriver à Bandunduville, hier, c'est de la mer à boire. Le manque de moyens de transport par route, la rareté d'unités fluviales sur la rivière Kwilu et l'absence totale d'une ligne aérienne entre ces deux villes serait à la base hier de l'enclavement de ces deux villes.
Alors, mais finalement, quels moyens utilise-t-on pour y parvenir alors?
Ce sont des moyens habituels, hein, routes et embarcations fluviales, mais difficiles à traverser, car on peut faire une à deux semaines à Kikwit ou à Bandundu sans pouvoir trouver une occasion pour accéder vice-versa à ces deux villes. La ligne aérienne, n'en parlons même pas hier, ça n'existe même pas. Et pourtant, les moyens de communication existants et réguliers devraient permettre un échange facile JR de produits vivriers entre ces deux entités, qui pouvaient être approvisionnés régulièrement en poissons, viande, bananes plantées, etc. Et qui et environ interviendraient en produits vivriers et agricoles en faveur de Bandundu. À l'heure qu'il est, cette difficulté se pose, JR.
Oui, ben voilà, là, j'ai compris que les visiteurs doivent user de leur patience, hein, sinon, ben voilà, ils en auront ras-le-bol. Alors, quelles sont les conséquences de cet enclavement à Fabien Cambizi?
Les conséquences sont là, comme j'ai eu le dire précédemment. Manque d'échange entre ces deux villes. Écoutons plutôt les points de vue de cet habitant de Kikwit, joué par Radio Okapi.
Bon, naza habitat à Kikwit, difficulté à m'en faire aller à transport entre le commerce à Kikwit et Bandundu. Vous avez un retardement à Biloko, trop sombre à Biloko, pour la coquine à Bandundu, transporter à la pâté, pas ses alliés à Kati, et à Bandundu, pays idem, pour la coquine à Kikwit, c'est problème. Alors, tous les alliés à Komona, qui est le monde en est, la province, Moussou, sont les alliés chefs de l'Abiso, pas de Néanwan. On a un problème, ça, il y a transport, il y a transport et l'équipe à Kati. Et Kabona Kala, et Kabona Kala, et Mona, c'est les Bandundu, les alliés province, Moussou, qui quitte le pays idem, et donc, et on a raté que les alliés chefs de
D'aucuns diront deux villes le plus proche de la province de Bandundu qui n'arrivent pas à se communiquer correctement, ce qui est un problème sérieux hein, au niveau de voies de communication. Il y a sûrement un déficit au niveau de ces réseaux routiers. Voilà, donc on va évoluer avec vous, Fabien Cambizi. Vous avez parlé aussi des fonctionnaires qui éprouvent les mêmes difficultés.
Oui, JR, cette situation touche également les fonctionnaires et agents de l'État qui sont censés se déplacer entre ces deux villes pour leurs rapports et règlements de leurs différents problèmes de service. Pour vous exprimer cette souffrance des fonctionnaires dont les institutions ne disposent pas de véhicules, je vous propose à l'occasion l'avis de sept autres agents qui a souffert, pour joindre la capitale administrative du Bandundu.
Oh, vraiment, nous avons difficile à atteindre, par exemple, la capitale administrative, c'est-à-dire la ville de Bandundu. Il faut des moyens, par exemple, de transport. Nous avons beaucoup de difficultés pour déposer même les rapports. Les rapports peuvent traîner entre nous-mêmes même pendant deux semaines, trois semaines. Alors, on voit que vraiment, si l'État peut arriver à organiser ce secteur pour que nous puissions avoir facilement l'accès d'atteindre la capitale. Et si l'État, par exemple, peut disposer des moyens pour que l'on puisse vraiment atteindre facilement la capitale, capitale, c'est-à-dire de nous disposer de véhicules, par exemple, propres à l'État, qui peuvent faciliter ces transports. Mais ici, à Kikwit, nous avons une difficulté. Moi, qui vous parle en tant que fonctionnaire, vous pouvez même contacter certains des amis. On a difficile. Tels que nos amis qui quittent, par exemple, Idiofa, qui sont ici à Kikwit, pour déposer les rapports à Bandung, c'est difficile. Ceux qui viennent de Kayemba, de Makimanima, ainsi de suite. Vraiment, nous avons difficile à atteindre la ville de Bandung.
Un problème sérieux. Qui sait si notre invité pourrait nous apporter quand même des éléments d'éclaircissement. Il s'agit bien de Maurice Balimaka, ministre provincial des Transports. Fabien, vous avez précisé au départ que cet enclavement est un constat de la population, des opérateurs économiques et de la société civile. Comment pense-t-il venir à bout de ces difficultés et quels sont les panneaux indicateurs de solutions qu'il propose?
Hier, toutes les parties semblent rejeter ses responsabilités sur les autorités de l'État. La société civile particulièrement prie les opérateurs économiques à rétablir ces liaisons pour les biens de la population. Ces mêmes recommandations hier sont formulées également à l'endroit des autorités provinciales du Bandundu.
Alors j'imagine que pour vous déplacer, vous Fabien, afin de réaliser certains reportages, vous éprouvez d'énormes difficultés, hein?
C'est pas facile hier.
Voilà, c'est pratiquement un parcours des combattants, mais voilà, nous vous encourageons. Bonne fin de semaine, Fabien.
Merci, hier. À vous autant.
Maurice Balimaka, vous êtes ministre provincial des Transports, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Difficulté d'accès entre Kikwit et Bandundu est une réalité, vous en êtes conscient?
Oui, c'est une route qui est importante pour le Bandundu, en ce sens que nous avons le chef-lieu à Bandunduville et Kikwit qui est le poumon commercial du Bandundu. Bon, c'est un transport très important pour nous. Pour l'instant, il est travaux en cours, de manière à le rendre plus accessible. Mais en temps normal, en période sèche, on quitte Bandundu, ce qui coûte en moins de 4-5 heures, hein, par route.
Donc vous dites en moins de 4 heures, 5 heures?
De 4-5 heures, on peut quitter Bandundu, qui coûte par route, sans problème.
Ben alors, mais il y a un autre problème, c'est au niveau des embarcations fluviales. La fréquence de navettes, ne rencontre pas la sentiment de la population. À leur niveau, vous êtes au courant de cela?
Oui, bon, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments, pas beaucoup de bateaux qui sont dans Bandundu, qui coûtent. La plupart des bateaux qui sont Kinshasa, déjà chargés, sans transit à Bandundu, certains ne s'arrêtent même pas sans transit directement. Donc, il n'y a pas une navette permanente structurée entre Bandundu et Kikwit. Ce sont des choses qui sont à l'étude, de manière à ce que ces deux villes puissent être connectées de manière régulière. Mais à ce stade, il n'y a pas vraiment des armateurs qui font que Bandundu et Kikwit. C'est beaucoup plus organisé avec Kikwit que ça et vice-versa.
Alors, encore ce que vous dites, c'est comme si le réseau de voies de communication entre Kikwit et Bandundu est vraiment déficitaire. Hein?
Bon, ça doit pas suivre une volonté des opérateurs économiques. Nous, au niveau du gouvernement, ce que nous pouvons faire, c'est encadrer, mettre les structures d'accompagnement. Tout à l'heure, nous avons reçu le bateau de Balise, qui est le bateau de Kassai. Dans un prochain temps, on va aussi entamer le Kulu, de 1, de 2, avec la relance économique et cette nouvelle décentralisation. On voit maintenant apparaître par-ci par-là des gens décidés à mettre sur ce tronçon leurs embarcations. Donc c'est quelque chose qui ne se faisait pas, la conjoncture est dedans. Maintenant, nous pensons qu'avec tout ce qu'il y a comme sécurité, organisation, s'il n'y a plus de bateaux, plus d'opérateurs économiques, nous, en tant que gouvernement, ce qu'on peut faire, c'est les encadrer et les encourager.
Oui, mais parce que vous avez parlé des opérateurs économiques, n'est-ce pas là une façon de démissionner, de se désengager de votre responsabilité?
Pas du tout, nous ne pouvons pas être gouvernement et commerçant. Donc le gouvernement, c'est l'encadrement, c'est la promotion. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que gouvernement, mettre des baleinières sur le feu. Ça, c'est une opération purement économique. Ce qu'on peut faire, c'est faire un plaidoyer vers les ONG, vers les gens qui ont les moyens de le faire. peut donner des moyens de le faire éventuellement sous forme de micro-prêt ou autre chose qu'on pourrait imaginer. Et là, ça doit donner la possibilité de faire son pension. Tout ça est économique.
Oui, mais les opérateurs économiques n'ont pas la responsabilité sociale, par exemple, de construire une route à intérêt national ou également une route de desserte agricole.
Non, vous avez parlé de rivière, là. Pour la route, c'est en cours déjà. Nous avons le fusil route qui travaille déjà. Nous avons des projets avec des partenaires étrangers et nous étudions la possibilité de remettre tout ça. Ça, c'est ce que nous faisons.
Oui. Ben alors,
on va mettre le charroi sur ces routes. Cela relève donc d'une activité économique plus simple.
Alors, qu'en est-il de la ligne aérienne? Parce que là également, il s'est posé un problème.
Ben, c'est la même chose. La ligne aérienne, on n'a pas. Au niveau de Kikwit et de Bandundu, des aéroports qui permettent aux avions de passer la nuit. La balise est fermée à 5h, c'est l'après-midi. Et les avions qui viennent ont une autonomie limitée, Kinshasa, Bandundu ou Kinshasa, Kikwit. Ce qui fait que pour qu'un avion fasse Kinshasa, Bandundu, Kikwit, il veut augmenter son autonomie pour alors retrouver un autre point de ravitaillement entre Bandundu et Kikwit. On veut savoir qu'à Bandundu, la Kikwit, il faut faire les GP1. Qui est le carburant utilisé généralement pour les avions.
Mmh. Alors, par rapport à cette réalité, vous avez parlé des plaidoyers que vous avez déjà eu à faire auprès des ONG qui travaillent dans les secteurs routiers. Est-ce que vous avez eu un feedback satisfaisant?
Absolument, nous étions tous les jours. Vous savez que notre gouverneur, le docteur Richard Dambo, et moi-même, parce que ne passons pas un jour sans qu'on reçoive des délégations venant de partout. Et chaque fois que nous avons la possibilité, nous nous mettons les problèmes d'ensemble de la province, y compris les routes, les aéroports, toutes les infrastructures de qualité publique sont un plaidoyer constant. On ne fait que ça du matin au soir. Et là, nous avons des échos positifs. D'ici, maintenant, je dirais quoi, mars, avril, l'année prochaine, nous verrons déjà sur le terrain des concrétisations de ces rapports.
Oui, ben alors, c'est un grand projet pour donner, disons, pour désenclaver le Kikwit et Bandundu. Je crois que vous avez déjà eu à évaluer le coût de ce projet.
Bon, en termes de coût, la plupart des routes que nous avons au Bandundu, à part la nationale 1, sont des routes en terre battue. Le travail est différent, on peut compter aux alentours de 50 000 à 100 000 dollars par kilomètre. Mais on aimerait vraiment se chercher de notre exécutif de mettre ces routes en asphalte ou en matériaux beaucoup plus durables. Et là, on monte très vite dans les 300 000 dollars par kilomètre. Hein.
Mm-hmm.
On est un peu dans ces zones-là pour l'instant.
Oui, mais c'est un projet de quel échéancier?
Je n'aimerais pas mettre de l'échéancier maintenant parce que nous dépendons la plupart de notre budget, c'est en cours d'élaboration. Mais on peut dire que d'ici la fin de l'année prochaine, si tout se passe bien, nous avons déjà des avancées concernant la route Bandundu-Kikwit.
Alors, quelles sont les prévisions budgétaires par rapport à ces projets? Vous aurez à réaliser ces projets sur, disons, en grande partie sur son propre ou les financements viendront des bailleurs de fonds?
Bon, nous avons certaines taxes locales que nous allons affecter directement sur les routes. Ça, c'est un plaidoyer que le gouverneur a expliqué il n'y a pas longtemps au cours d'interpellation que nous avons eu à l'Assemblée provinciale. De deux, nous avons des partenaires qui veulent investir dans la province et ces routes leur sont primordiales pour acheminer et leurs produits et leurs matériels. Donc, ces gens seront sa contribution. Et de trois, nous avons un programme avec le fil des routes. Sur le plan sur le transport. Donc, nous avons trois possibilités d'aménager et d'améliorer ces routes.
Mmh. Donc, il y a déjà des bailleurs des fonds qui se sont prononcés sur la question.
Absolument. Nous avons déjà deux, trois personnes qui sont déjà sur place. On espère leur arriver dans le prochain mois. Alors, il y aura une évaluation avec eux. De telle manière qu'on puisse voir quelles sont les priorités et comment commencer éventuellement la réflexion de la route dans nos circuits.
Alors, au niveau de l'exécutif, vous avez ciblé, disons, par rapport aux besoins exprimés, quelles sont les priorités?
Bon, le Bandundu, la priorité principale, c'est ce qu'on prend dans chaque chantier de l'État, c'est les routes et l'infrastructure. Nous sommes une province qui a besoin de routes. on est dans un axe central de Kulu qui est assez équipé en route, mais qu'il faut aménager, remettre en état. Le nord est pratiquement sans route, et aussi le sud est sans route. Donc notre priorité principale, c'est de désactiver toute la province, de faire en sorte que les biens et les personnes puissent circuler, ça c'est de un. De deux, nous avons la plus grande infrastructure scolaire. Vous savez que le Bandundu a pratiquement deux terres d'école par secteur. Et ça, c'est la réhabilitation des écoles, des hôpitaux, ça c'est un peu le tissu de notre priorité dans Bandundu.
Oui, mais il est un secret pour personne que la province de Bandundu est en déficit quant à aux infrastructures des bases. Mais quand nous parlons de routes, aujourd'hui, selon nos sources, disons, Kikwit, Bandundu, il n'y a même pas une voie ferrée.
Bon, normalement, je suis content parce qu'il y a une voie ferrée qui devrait se mettre en chantier, qui devrait relier Kinshasa et les Baux. Maintenant, on revient de la route Lebo Lubumbashi jusqu'à Durban. Ça, c'est déjà un projet sur lequel nous sommes tout à fait intéressés. Mais à part ça, qui dit voie ferrée, dit pôle d'intérêt économique. Donc, s'il n'y a pas encore de voie ferrée maintenant qui sillonne le Bandundu, c'est que le pôle d'intérêt économique n'a pas encore été créé ou identifié. Donc là où on avance dans le projet, si le projet qui se fait au Lebo au fait jour, on verra bien ensemble dans la province quel est l'itinéraire que ce train devra emprunter de manière à desservir éventuellement qui quitte ou alors le pôle d'intérêt économique que vont identifier au cours de ce projet.
Oui, dans la clé de répartition des charges pour réaliser ce projet, si ce n'est pas un secret, bon, loin mon intention d'être indiscret, vous allez participer, vous, avec le taxe, à hauteur de quel pourcentage?
Bon, le niveau des taxes que nous avons dans la province sont encore embryonnaires. Ça s'est jamais fait. On a trouvé une trésorerie désastreuse. Nous sommes en train de organiser pour l'instant. Nous avons augmenté le niveau de recouvrement de moins de 37% par rapport aux années précédentes. Donner un chiffre, c'est prématuré. Par contre, on sait qu'avec le peu que nous aurons au niveau des recettes que nous réalisons dans les recouvrements, nous allons essayer d'apporter notre pierre à l'évaluation et à l'amélioration du réseau routier et des infrastructures.
À peu près 40%.
Nous comptons beaucoup plus sur les apports des partenaires qui viennent investir dans la province et éventuellement aussi sur le pouvoir central.
Oui, mais le pouvoir central va vous appuyer, les bailleurs des fonds également, mais en termes de pourcentage, la province va sortir combien exactement?
Ben, je serais très très réservé, je dirais dans l'ordre de 10 à 20%.
10 à 20%. Ben voilà, alors au niveau de la préparation de ce projet, est-ce que vous rencontrez quelques difficultés?
Non, pratiquement pas. Nous avons la population de Bandundu tout à fait soudée derrière nous. Si vous êtes programme attentivement, nous n'avons pas de problème de ce côté-là. L'Assemblée aussi nous soutient. Donc on n'a pas de problème. Cette nature. Par contre, nous aurions souhaité qu'il y ait un peu plus de soutien du côté du pouvoir central. Nous avons hérité une province tout à fait démunie en tout, et nous aimerions que le pouvoir central, de temps en temps, nous donne aussi un clin d'œil. Quoi.
Alors, quelle attitude a le gouvernement central par rapport à votre projet?
Il n'y a pas encore de commission tout à fait mixte entre les provinces et le pouvoir central. Après, c'est un pôle d'intérêt comme le niveau de carbure. On a aussi eu une mission, une conférence à la Bandundu il n'y a pas longtemps. Donc, au fur et à mesure, nous avançons, je pense qu'il y aura des synergies qui vont se créer. Et on va trouver ensemble avec le gouvernement central quel sera le pôle qu'on pourrait développer ensemble.
Comment vous imaginez ces projets? Comment voyez-vous ces projets? Est-ce que d'ici début de l'année, il y aura quelques avancées significatives?
Bon, c'est en fin d'année, hein. Ici, c'est le budget qui se prépare. Après le budget, nous devons passer sur les priorités de la province qui sont restées en souffrance depuis un petit temps. Nous comptons vraiment entamer toutes ces choses à partir de janvier-février, donc l'année prochaine. Cela, on pourra voir un peu plus clair, le budget sera voté, et éventuellement les lois sur la décentralisation seront aussi assez avancées. On pourra savoir exactement quelles sont nos prérogatives, nos responsabilités éventuellement, qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Donc, ça peut être maintenant de s'avancer pour donner un délai, mais je pense qu'on pourra s'organiser valablement
à partir de l'année prochaine. Donc, on peut retenir que pour la province de Bandundu, notamment en ce qui concerne le voie des communications, l'année 2008, ça sera une année de détermination.
Tout à fait. Il y aura des changements significatifs l'année prochaine, ça, vous en reprendrez.
Voilà, il y a quand même des réactions des auditeurs, mais avant les réactions d'école, vous avez en ligne le ministre provincial des Transports, Maurice Balimaka.
Oui, monsieur le ministre provincial, vous avez à faire de belles promesses à la population qui vous suit et qui ne manque pas de réagir. Mais on aimerait revenir sur quelques projets que vous avez. Nous avons retenu que, en ce qui concerne les routes et la voie ferrée, vous avez le vent en poupe pour l'année 2008. Mais qu'en est-il de la ligne aérienne ainsi que de la voie fluviale? Parce que nous avons appris que parallèlement à cela, on parle d'une absence totale d'une ligne aérienne entre les deux villes, Kikwit et Bandundu. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Comme je disais encore, je le répète, les compagnies aériennes sont des compagnies privées. Les compagnies privées fonctionnent sur le mode de l'intérêt. L'intérêt économique. Or, entre Bandundu et Kikwit, il y a une concurrence routière, une concurrence fluviale. Donc, l'opérateur économique quitte Kinshasa a plus intérêt à faire Kinshasa-Bandundu-Kinshasa que de faire Kinshasa-Bandundu-Kikwit, parce que le plus gros du fret est parti par voie routière et par voie maritime, ou par voie fluviale, ainsi que le passager. Et de l'autre, ils ont un problème de logistique. Pour faire le refueling à Bandundu, c'est impossible, et à Kikwit, c'est impossible. Donc, ils doivent charger leur carburant, leur fret et leurs passagers au départ de Kinshasa. Donc, ça réduit largement la marge de manœuvre de l'opérateur économique qui veut faire Kinshasa, Bandundu et Kikwit. Donc, là, il y a une absence d'opérateurs aériens qui font la liaison régulière entre Bandundu et Kikwit.
Mais c'est aussi à vous de faire des efforts de ce côté-là. Pourquoi vous n'encouragez pas les opérateurs aériens dans ce sens?
Bon, c'est facile à dire, l'avion coûte ce qu'il coûte. Dire à l'opérateur aérien, faites un navette Bandundu qui quitte, ça va lui donner des moyens. L'aéroport de Bandundu n'a pas de réservoir qui puisse stocker les UP1, de 1, ni Bandundu, ni qui quitte. Bon, dire ça à l'opérateur, c'est envoyé au suicide. Donc, c'est ça le premier problème. Bon, si nous résolvons ce problème au niveau de l'aéroport, des aéroports de qui quitte de Bandundu, de toute manière qu'un avion peut passer soit un stop, soit se reculer, on va faire changer les choses. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit essayer d'envisager dans le futur. C'est pas impossible, mais enfin c'est déjà un projet.
C'est déjà un projet, encore un autre projet que vous comptez réaliser en 2008, si tout va bien, avec l'appui du gouvernement central. Mais à condition que le gouvernement central aussi vous appuie.
Bon, dans tous les cas, c'est un plaidoyer. Nous avons des opérateurs qui vont venir dans la province, et ceux-là, certains d'entre eux ont leurs propres avions. Ils nous ont demandé la possibilité d'avoir leurs avions basés à Bandundu. Alors, s'ils sont tout à fait décidés à ce qu'ils veulent faire, peut-être ensemble, on peut trouver un moyen terme où ils investissent dans l'aménagement de l'aéroport en les mettant des citernes, ce qui permettra aussi par ricochet aux opérateurs économiques de prolonger leur tronçon de Bandundu à Kikwit. De qui ça s'agit, à Bandundu, si nous arrivons à le matérialiser.
Oui, mais,
c'est aussi une possibilité.
Oui, mais juste une précision, est-ce qu'il y a un grand nombre d'opérateurs économiques à Bandundu?
Ah, pas mal maintenant, depuis que le Parlement est installé, depuis qu'il y a un gouvernement, la ville a carrément explosé. On se rend compte qu'il y a un afflux de personnes, il y a beaucoup de voitures. Quand sont arrivés, il n'y a pas 6 mois, je pouvais compter les voitures peut-être à 10. Maintenant, on peut s'enorgueillir d'un charroi d'environ 100 à 200 véhicules, le changement.
Il n'y avait que 10 voitures dans la ville de Kikwit quand vous êtes arrivé?
Ah, c'est ce que j'ai vu quand je suis arrivé, en tout cas.
Sans commentaire. Voilà. Honorable Diane Paulet à Kisangani, contribue quand même à cette réflexion en disant l'enclavement des districts par rapport au chef-lieu des provinces est général à la République démocratique du Congo. C'est le cas d'Isiro qui est coupé du pays parce qu'il n'y a aucune route, voie ferrée impraticable, pas de voie aérienne. Le gouvernement sélectionne les provinces pour certaines constructions des infrastructures. Alors, nous l'appelons ça de l'injustice. Je sais que c'est son point de vue. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue, Maurice et Balimaka?
Bien, je pense que ce problème de l'enclavement est un peu commun à toute la République. Ici, les exécutifs provinciaux ont la lourde tâche de leur faire quelque chose. Moi, c'est que 45 ans de pouvoir n'ont rien fait. Hein.
Oui, donc ils doivent répondre un peu tout. Voilà, Maurice Balimaka, nous rappelons que vous êtes ministre provincial de transport. Vous avez été notre invité. Ben voilà, on vous a pris à pied levé parce que vous revenez d'une mission. Et au moment où vous êtes descendu de l'avion, nous vous avons pris au téléphone. Vous nous avez honoré, hein. Une fois encore, merci. On vous encourage dans cette démarche.
Ok, merci beaucoup et merci pour cet entretien.